VOA Afrique, les infos. À Washington, Idriss Fall.
Les Maliens se sont rendus aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est sous une fine pluie que certains Maliens ont accompli leur devoir civique. En plus des difficultés d'ordre organisationnel, il faut ajouter le faible taux de participation qui, selon certains observateurs, n'atteignait pas 10% à Bamako dans la mi-journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en accomplissant son devoir civique au niveau du bureau 14 de l'école fondamentale Sébenigoro Abbé, a lancé un appel à tous les Maliens afin qu'ils puissent sortir massivement pour venir voter pour les candidats de leur choix. C'est à Tombouctou, plus précisément dans la ville de Niafunké, que Soumaïla Cissé a voté, accompagné de son épouse. Les candidats de lui L'URD a dénoncé les fraudes, mais aussi les bourrages d'urnes qui ont émaillé le scrutin du 29 juillet. Pour ce second tour, les Bamakois ne se sont pas bousculés devant les bureaux de vote. Certains vaquaient normalement à leurs occupations quotidiennes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et pour rester dans la région de Tombouctou, le président d'un bureau de vote a été tué par balle par des hommes armés à Arkodja, à 100 km au sud-ouest de Tombouctou. 6 personnes sont entrées dans le bureau de vote et l'ont assassiné et ils avaient dit qu'ils avaient interdit le vote. Au Burkina Faso, au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque visant hier les forces de sécurité dans l'est du pays. 4 gendarmes et 1 civil sont morts dans l'explosion d'une mine et 1/5 a été tué dans des échanges de tirs qui ont suivi cette explosion. Ces gendarmes, selon le communiqué de l'armée, étaient chargés d'assurer la sécurité d'une mine d'or à Bungu, dans la région de Fada, dans l'est du Burkina Faso. Et dans l'extrême nord du Tchad, des rebelles venus de Libye ont attaqué hier la localité de Kouri Bougri. Le groupe armé Conseil de commandement militaire pour le salut de la République a revendiqué l'attaque, mais l'état-major des armées à N'Djamena affirme avoir repoussé l'ennemi. Dans le nord-est de la RDC, un nouveau décès parmi les cas confirmés de la maladie à virus Ebola, portant à 11 le nombre de morts. Ce décès a été enregistré à Beni. Au total, 36 personnes sont mortes parmi les cas confirmés. Au total, 36 décès parmi les cas confirmés et probables ont été enregistrés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Égypte, un tribunal a condamné à la prison à perpétuité Mohamed Badey, guide suprême des frères musulmans. La prison à perpétuité se traduit par 25 ans de détention maximum dans ce pays. 4 autres responsables de ce mouvement interdit ont aussi été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans de prison. Leurs avocats ont promis de faire appel. Et toujours en Égypte, le ministère de l'Intérieur annonce que les forces de sécurité ont tué 12 suspects de terrorisme dans la ville de Al-Arish, dans le nord du Sinaï. Plus de 250 djihadistes présumés, une trentaine de soldats sont morts depuis le lancement en février de l'opération pour déléger une branche locale du groupe État islamique. En Syrie, au moins 39 civils, dont 12 enfants, ont été tués dans l'explosion d'un dépôt d'armes dans la province d'Idlib. Les causes de l'explosion qui a provoqué l'effondrement de 2 immeubles ne sont pas encore connues selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Iran, 67 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une campagne anticorruption. Plus d'une centaine de fonctionnaires ont également été interdits de quitter le territoire. Le vice-gouverneur de la Banque centrale a été arrêté ainsi que d'autres responsables accusés de spéculation. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que la chute de la livre turque résultait d'un complot politique contre son pays, alors que les relations avec les États-Unis sont au plus bas.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Merci de nous écouter. C'est le dialogue des religions qui commence. Eric Manirakiza avec vous. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la famille. Le pape François a écrit une préface à un recueil de textes de son prédécesseur Benoît XVI sur la politique. Dans ce texte, révélé le 6 mai par le journal italien La Stampa, il affirme qu'il existe une limite à l'obéissance à l'État en matière familiale. Et pour le successeur de Pierre, il existe aujourd'hui une idéologie qui refuse tout amour, sauf celui de son propre ego. Selon lui, cela entraîne une colonisation des consciences par une idéologie qui nie la différence homme-femme, certitude de fond et son rôle dans la transmission de la vie. Sans les nommer, le pape désigne ainsi la théorie du genre et l'avortement, basée sur la grande négation que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, il faut établir l'obéissance de l'homme à Dieu comme limite de l'obéissance à l'État, ce qui aujourd'hui signifie défendre la famille. Cette idéologie, poursuit-il, aboutit à la production planifiée et rationnelle de personnes qui considèrent licite d'éliminer ce qui n'est plus considéré comme créé, donné, conçu et généré, mais fabriqué par nous seuls. Ces apparents droits de l'homme, estime le souverain pontife, conduisent in fine à l'autodestruction de l'homme. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, avait déjà étudié ce problème avec l'idéologie marxiste, analyse le pape argentin. Il avait ainsi mis en évidence que l'authentique différence entre le marxisme et le christianisme se situe dans la différence abyssale quant à la rédemption. Alors que l'idéologie communiste voit celle-ci comme la libération de toute dépendance, le christianisme la voit comme complète dépendance à l'amour qui constitue la vraie liberté. Nous avons dans ce studio des invités qui vont essayer de discuter la pensée du pape. Je vais commencer par ma droite, ma collègue Kadiatou Traoré, qui est musulmane, qui va nous parler de la place que la religion musulmane accorde de la famille. Mm-hmm. Merci Kadiatou d'être là.
Merci encore une fois Eric de me donner l'opportunité de venir parler de quelque chose d'assez important dans la religion musulmane.
Voilà, priorité dame, même quand on joue au jeu de dame. C'est ce qu'on dit. J'aurais dû commencer par ma gauche, mais je confesse déjà. C'est le père Steve qui est avec nous.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous.
Et merci d'être avec nous.
Tout le plaisir est pour moi.
Pour me faire pardonner, je vais vous accorder la parole en premier. Vous avez reçu je dirais pas une directive, je ne sais pas, mais vous allez peut-être nous éclairer davantage. La pensée du pape, comment vous la transmettez?
Non, comment je la reçois d'abord, parce que c'est très important de replacer les propos du pape François dans leur contexte, qui est actuellement, en fait, d'après l'Église, mais nous nous accordons largement avec les grandes religions, que en ce moment la famille, ce qu'on appelle la famille, subit des mutations, subit des transformations, donc elle est menacée dans ses fondements traditionnels, et donc du coup il faut la protéger. Et dans ce cas, ce que vient dire le pape François, ce qu'il appelle les colonisations idéologiques, c'est de faire en sorte que tout ce qui constitue le fondement traditionnel de la famille, c'est-à-dire la famille comme un homme et une femme, donc un père et une mère, éventuellement avec des enfants lorsqu'ils peuvent les avoir, parce que c'est pas toujours évident, on va pas mais on suppose, alors la famille idéale c'est cela, et bien tout cela est en train d'être remis en question par non seulement des lois, mais des modes de pensée, des modes, enfin on y reviendra en détail, Alors, c'est cette famille-là qu'il faut protéger. Parfois qu'il faut protéger d'elle-même, parce que nous n'avons pas tous la même conception de la famille. Maintenant, on parle des familles, des familles monoparentales, des familles homoparentales. On a le divorce est devenu monnaie courante un peu partout, et ça gagne l'Afrique, puisque nous sommes essentiellement en train de nous adresser à des auditeurs du continent.
Mais c'est aussi un droit.
C'est ce que oui c'est bien sûr, c'est un droit du point de vue légal, bien entendu. Mais alors tout cela fait que l'idée qu'on a de la famille risque d'être effritée. Il y a un certain relativisme, et sur ce plan-là, le pape François ne fait que rappeler ce que du moins le christianisme, on va écouter ce qu'on dit l'islam tout à l'heure, du moins ce que le christianisme a toujours professé, étenant cela comme étant révélé divinement, puisque faisant partie de la tradition des écritures saintes, etc.
Voilà. Voilà, Kadiatou, le père Steve,
j'avoue que
l'avocat du pape.
Non, mais après.
Comment vous recevez justement cette.
Bon, moi, la manière dont moi je reçois là, comme il a si bien dit, je le rejoins sur un certain nombre de points, mais ce que moi je voulais vraiment relater, c'est que quand on regarde un tout petit peu ce que dans l'analyse du pape, il y a même l'existence de Dieu qui est en train de se mettre en question. Est-ce que les gens, parce que les familles se font par elles-mêmes, le prêtre vient de le dire tout de suite, et ça veut dire quoi? C'est la conception d'enfants depuis des bouteilles.
Après une union.
Absolument. Quand tu veux, si tu veux pas, tu peux avoir un enfant comme ça. Or, union et tout ça, c'est fait par les hommes. Et même, ça met en cause l'existence de Dieu. Est-ce que c'est une question que je vais encore renvoyer à mon cher collègue, mon frère, évêque. Qu'est-ce qui peut être la solution à cela à l'avenir, avec cette révolution idéologique et contemporaine qui gagne la formation des familles dans une certaine liberté? Comment faire pour maintenir la spiritualité de la chose au point de vue de différentes religions?
Il répondra à la question tout à l'heure, mais comment vous concevez la famille au niveau de la religion musulmane?
La famille, elle est très importante au vu de la religion musulmane. Tout commence par la famille. C'est-à-dire que c'est la famille qui constitue la communauté musulmane depuis la nuit des temps. Et c'était traditionnel, mais les religions sont venues la trouver comme ça. Et elle est comme ça. Et c'est à l'intérieur de cette famille-là que les choses se font. Et puis ça gagne la communauté. Donc, au vu de la religion musulmane, la charia même, la conception au vu des lois musulmanes de la famille est très importante.
Alors, au niveau du christianisme,
nous avons déjà des auditeurs en ligne.
Voilà, au niveau du christianisme, la famille elle est sacrée parce que c'est la cellule nucléaire. C'est ce qui commence, c'est ce qui constitue la base. Mais elle rejoint l'idée que l'on se fait également de
le
Dieu.
Le fondement de la société.
Le fondement de la société, mais le fondement
le
de la dignité,
même,
la dignité de la personne humaine commence par la famille. C'est-à-dire que dans la famille, on ne reçoit pas seulement les interdits, les lois, mais on reçoit également tout ce qui constitue les valeurs humaines, tout ce qui constitue la fraternité, le pardon, le respect, tout s'apprend et se reçoit dans la famille. Et on ne choisit pas sa famille.
Absolument.
Donc la famille devient un don qui nous forge en fait. On devient homme ou femme, on devient humain parce que nous avons reçu quelque chose de la famille.
Un pas don seulement à protéger.
On va protéger, bien sûr, parce que protéger la famille revient en fin de compte à se protéger soi-même, à défendre sa propre dignité. Voilà.
Voilà, on va revenir vers ici. Nous avons des auditeurs en ligne qui attendent. Nous avons Hassan Omar. Bonsoir, Hassan.
Bonsoir.
Voilà, vous avez suivi notre discussion ici, mais déjà vous. Vous dites que la famille est sacrée dans la religion. Comment?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Dans la religion, moi, je suis de la religion musulmane et la famille, elle est très importante. C'est même le socle de la vie parce que faut savoir que c'est l'éducation, la première éducation que vous allez avoir, c'est dans la famille avant d'aller à l'école avant l'affluence environnementale. C'est la famille qui vous construit. Et souvent, on regarde la personne ou l'enfant et de ce comportement, on voit la situation familiale, on voit le parent, comment ils élèvent ou éduquent l'enfant. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a une transformation cruciale et totale de la famille. Nous avons des familles qui sont souvent, on dit que homosexuelles ou voilà, qui sont des mêmes genres. Et ça détruit complètement l'humanité. Il faut le dire, parce que l'humanité, c'est quoi? L'humanité, c'est un mâle, je peux dire, c'est un homme et une femme qui construit une vie et qui fait un noyau de l'amour et qui peuple le monde. Mais si on ne trouve
Hassan,
pas ça, oui.
Vous approuvez à l'approche du pape. Vous accordez avec le pape.
Oui, parce que les religions, monothéistes, ils sont souvent de même accord, une forme de même accord.
C'est... Absolument. Sur la famille, ça c'est un point
commun,
largement partagé, avec quelques différences bien sûr, mais oui.
C'est un point commun. C'est le noyau de la famille.
Hassan.
Oui.
Avez-vous une question à poser à l'un de nos deux invités?
Oui, moi, j'aimerais poser au pape une question qui me semble très importante.
Le pape, il n'est pas ici au studio, mais
non, l'évêque.
Je suis avec le père,
oui,
Steve.
C'est l'évêque,
D'accord, allez-y.
Le pape n'est pas présent, il est au fatigant, ouais.
Voilà.
Donc, j'aimerais poser une question. La question, c'est quel est aujourd'hui le programme ou les principes qui sont mis en place pour protéger la famille, la famille traditionnelle, dont d'accord. nous avons toujours eu connaissance.
Voilà, Père Steve, il ne faut pas rejeter de devenir pape, peut-être que...
qu'il plaise à Dieu de faire ce qu'il voudra. Mais pour l'instant, alors je vais répondre à cette question si vous le permettez. En fait, au niveau, par exemple, des différentes églises, on essaie de travailler ensemble pour des programmes d'éducation familiale. Et je vous fais savoir, par exemple, au niveau de l'Église catholique dont je fais partie, c'est que ce mois d'août, comme tous les trois ans, il y a ce qu'on appelle un congrès mondial des familles. Le dernier congrès, d'ailleurs, s'est tenu à Philadelphie, non loin de Washington, il y a trois ans.
Et le pape était là.
Et le pape était là. Alors les congrès des familles, c'est une idée du pape Jean-Paul II qui a essayé de renforcer les familles. Qu'est-ce qu'on y fait? On invite des familles. Ce sont les familles qui elles-mêmes sont protagonistes. C'est-à-dire que il y a des couples qui viennent témoigner, il y a des conférenciers qui pour la plupart sont laïcs. Ils donnent leur témoignage, les familles se rencontrent et ils réfléchissent ensemble sur leurs défis. Les femmes prennent la parole pour ce qui concerne les défis des femmes. Les jeunes ont l'occasion on les écoute également. Il y a eu également, alors l'année dernière, ce qu'on appelle le synode sur la famille, c'est-à-dire les grandes assemblées, il y en a eu deux en fait, en 2014 et en 2015, deux synodes sur la famille, c'est-à-dire des grandes assemblées d'évêques où on essaie de réfléchir sur la famille, et je vous inviterai à lire, si vous voulez vraiment approfondir par vous-même, la belle exhortation apostolique du pape François qui s'appelle Amoris Laetitia, donc la joie de l'amour, où il relève tous les grands défis maintenant du 21e siècle, parce qu'on avait besoin d'un aggiornamento, c'est-à-dire une sorte de mise à jour, parce qu'en 60 ans, depuis la révolution sexuelle de la fin des années 60, tellement de choses ont changé, et ça nous affecte, mais vraiment jusque dans la case du village, quoi. Voilà, je sais pas si...
Tout à fait, absolument, moi je vois la chose de cette manière aussi.
Est-ce qu'on fait des rassemblements aussi au niveau de l'islam?
Absolument, oui. Il y a beaucoup de rassemblements dans les mosquées, de plus en plus. Il y a aussi
mais c'est pareil. Il y a toujours un mur ou...
Non, pas autant qu'il y a un mur. Bon, enfin, quand tu pars dans la mosquée, les hommes prient.
De leur côté.
Et les femmes et les enfants sont de l'autre côté. Mais quand il y a des rassemblements comme ça, je pense que les gens se rejoignent. Il y a des centres ici, dans le Maryland, dans les centres islamiques, dans lesquels il faut ma fille, j'ai une de mes filles, la dernière, et qui est très, très, très active dans la communauté musulmane, et elle assiste à beaucoup de choses au sein de la mosquée. Et c'est pareil, comme chez les chrétiens, et comme chez tout le monde ici. Vous voyez un peu, c'est de tradition aussi aux États-Unis, et que les religions s'organisent autour des lieux de culte, et en amenant les familles vraiment à participer.
Les religions deviennent aussi des centres sociaux, c'est pas simplement que pour la doctrine, c'est aussi.
Absolument.
Voilà. Merci Hassan pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Restez à l'écoute. Il y a Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui dit une famille qui craint Dieu obéira à l'État et aux autorités. On obéit à Dieu, on obéit aussi à l'État. Jésus a dit à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. On respecte Dieu et en même temps on se soumet aux lois du pays et aux autorités. Beaucoup de gens qui n'ont pas reçu l'affection familiale grandissent ou ne rendent pas l'affection à leur prochain. C'est le point de vue de Alphonse Mbouaki. Il y a Valérie et Capita qui dit la place que notre religion accorde à la famille est respectueusement à la hauteur divine. La famille est la première cellule de la société, obéissance en premier lieu essentiellement à Dieu et ensuite le respect aux autorités morales.
La plupart des religions bien sûr s'accordent sur le fait qu'il faut protéger la famille, mais ce qui revient dans les commentaires c'est l'obéissance par rapport aux lois ou aux décisions de l'État. En fait, il y a, comme a dit le pape, une certaine limite par rapport à ce que la conscience de quelqu'un peut lui permettre. C'est-à-dire, un grand homme de ce pays, Martin Luther King, pour ne pas le nommer, a dit que, voilà, on peut obéir à l'État, sauf si une loi est injuste. Alors, c'est le mot-clé, injuste par rapport à quoi ? C'est-à-dire que chaque être humain a une conscience, y compris religieuse, et on ne peut pas objectivement forcer quelqu'un. Je vous donne un exemple. Pour être très concret, parce qu'il faut être terre à terre, on est en train de parler à des auditeurs qui mènent une vie de tous les jours très concrète.
Absolument.
Par exemple, si une loi vient obliger, je sais pas moi, un médecin à pratiquer une interruption volontaire de grossesse appelée avortement, ici la loi permet l'objection de conscience. C'est-à-dire, le médecin va dire, moi, conformément à mes convictions, je ne suis pas en mesure de faire ce que la loi m'impose pourtant de faire. Ça, c'est un petit peu la limite, la petite frontière très très fine, extrêmement difficile, entre ma conscience et mon devoir. Voilà.
Nous avons deux auditeurs en ligne. Kadiatou, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Il y a Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous de la VOA.
Très rapidement, la considération que vous donnez à la famille dans votre religion.
Bon, la famille quand même a un rôle très très important, je dirais, dans la religion que je pratique, la religion musulmane. Et j'aimerais aussi répondre à un point, puisque le monsieur vient de dire que les enfants prient avec les femmes. Je pense que dans la plupart des mosquées dans lesquelles nous prions ici quand même, les enfants, les garçons surtout, prient avec leurs parents et les filles prient avec leurs mamans. C'est le cas aussi, je pense, dans plusieurs pays aussi. Et je salue quand même cette journée qui est initiée aussi par le pape, puisque il faut reconnaître que la famille, c'est avant tout un ensemble, c'est un ensemble. Il ne faut pas écarter un tel ou un tel. Nous sommes unis et nous devons quand même faire en sorte que nous puissions vivre ensemble et dans la communion. Merci.
Merci à Brahima. Vous n'avez pas une question à poser ? Ah, Brahima est déjà parti. Bon, avons Tierno. Et puis vous prenez la parole très bientôt. Diallo Tierno, bonsoir.
Oui, bonsoir à Eric et bonsoir à vos invités et à l'ensemble des auditeurs.
Vous avez la parole, vous pouvez également poser des questions.
Ok, merci. Mon opinion là-dessus, moi je pense que la famille c'est quelque chose qui est sacré, parce que les religions sont venues trouver les familles composées en place. Aussi que les prophètes tous sont issus des grandes familles, donc il n'y a pas quelque chose c'est différent. Tout le monde est unanime là-dessus que la famille, c'est quelque chose qui est sacré. Mais c'est la manière d'interpréter de certains versets ou bien, comment dirais-je, de certains articles qui composent dedans, c'est ce qui envoie les quelques discussions à la base. Mais tout le monde est unanime que les familles, c'est quelque chose qui est sacré parce que la religion n'aurait pas pu exister si les familles n'étaient pas en place. Donc les religions sont venues trouver les familles en place. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à discuter là-dessus. Merci.
Vous avez une question?
Non, j'écoute vos invités là, je suis très ravi.
Merci, merci Tcherno et bonne soirée chez vous à Conakry.
Moi, je voulais quand même, on peut pas parler de cela sans pour autant donner, voilà, donner à, comme la définition de la famille, les relations entre les gens de la famille. Parce que dans la religion musulmane, le prophète même est amené à dire que, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui aime vivre dans l'aisance, et retarder l'heure de sa mort maintient le lien de parenté. Et quand on parle de parenté, il y a une définition, ça sort du cadre du père et de la mère, et il y a les oncles, les tantes et tout le monde. Et dans la religion musulmane, on donne beaucoup de sens à cela. Une famille élargie. Quand on parle de famille, on ne se tient pas seulement à la famille, au père, à la mère. Il y a les cousins, les tantes, les oncles, et tout le monde est considéré. C'est cette considération qui constitue aussi, tu vois, la mise en place ou la construction même de la communauté à la base. Et les gens peuvent bien se côtoyer et voilà quoi.
On peut même épouser plusieurs femmes, c'est aussi
la polygamie aussi. La polygamie aussi qui vient quelque part, on le retrouve dans les lois musulmanes. Qui est la charia et qui est autorisée.
Pour multiplier la famille, c'est ça.
Pour multiplier la famille et aussi, s'il y a des problèmes aussi, c'est vrai que c'est difficile pour nous, moi, en tant que femme, naturellement, je me dis que c'est un peu difficile pour
femme,
pour
femme moi. Indépendante, voilà. Femme autonome.
Voilà, mais quand même, elle a aussi ses avantages. On ne peut pas parler de quelque chose en disant seulement que la chose est négative. Elle a été créée et sur les constats. Et elle a été mise dans les lois de la famille, de la parenté, sur des faits bien précis.
Alors, c'est la grande différence, oui. Si vous voulez.
Je dois placer un mot. Donc, cette polygamie qui est formalisée, mais il y a une autre polygamie qui est cachée, qui ne se vit pas.
Laquelle? Je veux que tu me le dises.
De toutes les façons, on voit.
Mais ça, c'est peut-être traditionnel. Ça a un caractère traditionnel.
Beaucoup d'enfants qui naissent en mariage, quoi.
Bon, ça c'est traditionnel. C'est purement. Ça sort du cadre de la religion.
Oui, il y a deux commentaires de nos auditeurs. C'est Osana qui dit je pense que le pape a parfaitement raison. A parfaitement raison, parce que la famille constitue le bonheur de l'homme, donc on doit défendre avec force son bien-être et ses intérêts. Il n'y a plus meilleur de ce monde que d'avoir une famille. Voilà, c'est ce que dit Osana. Il y a aussi El Hawa qui dit « Les propos du pape peuvent être analysés sous plusieurs angles. Si l'homme doit utiliser Dieu pour limiter son obéissance à l'État, cela voudrait dire que la famille est au-dessus de l'État. » Bref, c'est Tom de Dieu, philosophe, sur des mots, pour plaire.
Alors, je ne crois pas que ça soit pour plaire, parce que, alors, il y a ce qu'on appelle, il y a une dimension très importante de la mission de l'Église, qu'on appelle la mission prophétique de l'Église. C'est-à-dire que, et là, en général, les religions font tout ça, c'est que la religion a aussi la mission d'annoncer et de dénoncer, pour faire renoncer. Quand les choses ne vont pas, sur le plan sociétal, eh bien,
c'est dans votre rôle.
Exactement, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence même de la mission de l'Église, parce que l'Église n'est pas là simplement pour annoncer l'Évangile, et ça c'est bien, mais il faut que on entre dans le concret de la vie, et dans le concret de la vie il y a des difficultés, et donc quand il n'est pas le premier à le faire, en général on caricature, et c'est bien dommage, on caricature le pape François, du moins on le limite aux réformes qu'il entreprend, mais quand il donne du poing sur la table, les gens ont tendance à dire mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà.
Oui. Si vous lisez même la Bible, c'est la transmission de la vie quotidienne. Le Coran, je ne le connais pas, peut-être c'est la même chose.
Ah, si, pourquoi pas.
Il y a toutes les histoires humaines, je pense aussi.
Voilà.
Alors, en deux, trois mots, Kadiatou, quels sont les dangers qui menacent la famille aujourd'hui?
Le danger qui menace la famille, c'est que les gens sont en train de sortir en dehors même de cette constitution familiale et qui étaient des bases, des valeurs et des repères de la vie humaine avant. Et ça, c'est une menace pour l'humanité.
Difficile en 30 secondes de dire les principaux défis qui menacent la famille, mais simplement, je veux dire que une famille qui vit est une famille qui vibre, une famille qui sait aimer et qui sait pardonner est une famille qui est véritablement objet d'amour et qui donne et qui reçoit de l'amour. Voilà.
Merci à Père Steve pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci à Kadiatou Traoré, Eric Mandela-Kiza. Vous retrouvez à la prochaine dans le dialogue des religions. À très bientôt.